La spécialité de Bonduelle, les légumes. Christian Malenfant, vice-président marketing Bonduelle Amérique.
Bonduelle, c'est plus de 700 millions de livres de légumes surgelés, 13 millions de caisses de légumes en conserve, 880 millions de dollars de chiffre d'affaires, des contrats avec plus de 800 producteurs agricoles, dont 345 au Québec, 30 000 acres de terres cultivées au Québec et plus de 2600 collaborateurs, dont de l'emploi pour la plus belle profession au Québec, de l'emploi pour des agronomes.
Bonduelle, pour se maintenir et progresser sur les marchés, n'a d'autre choix que d'innover. Christian Malenfant exposant le contexte.
Je vais vous entretenir sur la nouveauté. Qu'est-ce que les consommateurs désirent comme innovation et en quoi ça a un impact sur mes collègues agronomes? C'est parce que notre survie en dépend, en fait, qu'on doit faire de l'innovation. Là, je suis un peu alarmiste, faites-vous-en pas. Bonduelle n'est pas en danger financier. Néanmoins, c'est pas parce que nos catégories de légumes en surgelé sont en croissance de 5 % année après année. Notamment, il y a 2 ans, avec une inflation majeure du prix des légumes frais, on a eu une croissance des légumes surgelés. Cette catégorie, la croissance est largement menée par les marques privées, les marques maison et non les marques nationales. C'est pas non plus parce que nos catégories de légumes en conserve sont en croissance de 4 % par année. Ça aussi, on a eu une bonne croissance quand on a lancé des légumineuses sans sel, avec moins de sel dans les boîtes. Mais c'est surtout parce que notre catégorie de légumes en conserve, vous vous en doutez bien, c'est année après année, c'est en déclin de 2 %. Il y a même une légère accélération dernièrement avec le vieillissement de la population. Alors, vous comprenez que si on ne se renouvelle pas, si on ne renouvelle pas notre portfolio, c'est un grand pas de notre profitabilité et de notre production qui est en danger. Mais au-delà de ça, je vous dirais que c'est plus le légume frais qui est une vraie menace pour nous, une menace ou une opportunité. La catégorie du légume frais, c'est 10 fois la taille de toutes nos catégories réunies. C'est en croissance de 6,5 % en moyenne par année. Et puis, cette croissance du légume frais est largement menée par les innovations. Souvenez-vous, il y a quelques années, on achetait une pomme de laitue Iceberg. On était tout contents, on payait ça 1 $. On y rajoutait une bonne vieille vinaigrette à l'italienne. Puis, on avait une bonne entrée de salade au repas. Aujourd'hui, bien, j'ose plus compter le nombre de salades qu'il peut y avoir de disponibles dans un rayon d'épicerie. Et on est prêt à payer le prix qu'il faut pour la nouveauté. Puis, ce qu'on remarque, c'est qu'on ne consomme plus les mêmes légumes. On les consomme plus de la même façon. On ne les consomme plus aussi dans la même occasion. Si je mange de la salade avant les repas, bien, j'en ai moins besoin dans mon repas principal. Pensez aussi à Fontaine Santé qui a fait exploser, je dirais, la catégorie des crudités. Alors, si on mange des crudités, on en a moins besoin dans d'autres occasions des légumes. Ça a un impact très important pour nous. Sans compter aussi toute la science sur les performances de certains légumes. Vous vous souvenez sûrement du légume, du kale, du chou kale, qui a occupé l'espace médiatique pendant plusieurs mois, il y a ça déjà un an. Mais ça a aussi un impact sur nous. Alors, oui, ça a un impact sur notre capacité à compétitionner pour le frais, mais en même temps, ce sont des super opportunités pour nous. Parce que si on ne le fait pas, bien, c'est les petites marques qui vont le faire. Là, je vous ai trouvé une étude du Boston Consulting Group. Ils se sont penchés sur que font les joueurs en croissance dans l'industrie du commerce de détail. Bien, ce qu'on remarque en 2018, les grandes marques, les grands joueurs n'ont pas de croissance dans l'industrie du commerce de détail. Ce sont les petites marques qui génèrent la croissance, 2,3 %, ce qui leur permet de voler 15 milliards de chiffres d'affaires à ces grandes marques. L'autre défi qu'on a, mais c'est bien beau, essayer de compétitionner contre les petits joueurs, mais ils sont beaucoup plus agiles que nous. Et c'est d'autant plus impactant pour un joueur comme Bonduelle, qui est d'une taille moyenne. Vous allez remarquer, dans le commerce de détail, finalement, les innovations finissent tous par se ressembler. Pourquoi? Parce qu'on a accès à tous au même bassin de fournisseurs d'ingrédients, au même bassin de fournisseurs d'emballage, au même recherche marketing. Quand je présente des innovations à mes clients aux États-Unis ou au Canada, souvent, je vois dans leurs yeux qu'ils ont déjà peut-être eu cette présentation de mes compétiteurs ou même de catégories extérieures des miennes. Alors, à la fin, ce qu'on remarque, c'est que dans nos catégories, tout finit par se rassembler très rapidement, puis même, je dirais, à l'extérieur de nos catégories. Alors, ça, c'est un gros enjeu. Mais là, je ne vais pas trop m'apitoyer sur mon sort parce que je suis quand même fier de ce que notre équipe a réussi à faire. On s'est aussi doté d'un processus d'innovation agile. Là, je fais une petite parenthèse si ça peut vous intéresser. Écoutez, on gère un stage gating d'innovation. On utilise la plateforme Trello. C'est gratuit sur Internet. C'est un média social gratuit sur Internet. Ça nous permet d'échanger nos plateformes d'innovation avec différents partenaires. On utilise Smartsheet pour gérer nos processus de développement de produits. On utilise gratuitement SurveyMonkey pour faire passer nos idées dans notre stage gating d'une étape à l'autre. Et tous les grands joueurs de l'industrie ont fait des recherches au retail avec Nielsen, Technomic, le service alimentaire. On utilise bien sûr Ipsos, Léger Marketing. Puis tout ça pour dire que j'ai mis ça dans la moulinette, j'ai brassé ça. Puis là, j'ai des grandes révélations à vous faire. 2 ans de recherche marketing, des tendances consommateurs. Mais je vais vous donner une autre perspective du point de vue manufacturier de ces tendances de consommateurs. Alors, la première, c'est que tout le monde est un expert. Vous l'avez vu, on est de plus en plus dans les médias sociaux et on engage nous-mêmes des experts pour suivre la parade parce que nos consommateurs en savent plus que nous-mêmes sur nos propres produits. Alors ça met une pression incroyable pour faire de l'innovation parce qu'il faut les surprendre, nos consommateurs. C'est pas une tâche facile. L'autre grande tendance, c'est « je le veux maintenant ». Vous êtes comme moi, vous voulez avoir vos produits instantanément, de la bonne façon, au bon moment. Mais ça met une bonne pression pour nous à adapter nos formats d'emballage, notre logistique, notre gamme de produits pour faire des ventes en ligne. Aujourd'hui, on vend sur Amazon. On est en liste pour faire la marque privée d'Amazon en légumes conserve. On vend aussi à Good Food. On vend des légumineuses dans les paniers Good Food. Alors souvent, il faut s'adapter à leur modèle d'affaires. Il faut faire des choses sur mesure pour eux dans les petites quantités. C'est un grand défi.
Mais voyons encore plus directement, pour les spécialistes des cultures, les agronomes, quelle influence, très directe tout compte fait, les consommateurs ont sur leur travail. Le vice-président marketing de Bonduelle Amérique donne des exemples, à commencer par les réseaux sociaux et des applications particulières.
Il y a une app pour ça, ça s'appelle Spoon Guru. Vous avez besoin de satisfaire vos objectifs de santé, bien, vous allez sur l'application et puis on vous suggère des aliments qui vont se modeler à vos objectifs de santé, goût alimentaire, puis à votre mode de vie. Mais ça, c'est une tendance qui nous force justement à trouver des légumes qui ont des performances alimentaires très précises, des combinaisons de légumes aussi qui ont des performances alimentaires précises. Ça nous force aussi à être très efficace dans nos valeurs nutritionnelles lorsqu'on développe des produits à valeur ajoutée. L'autre tendance aussi, c'est, je vous dirais, de plus en plus, les consommateurs veulent donner un sens à leur geste de consommation. J'oserais dire que les gens cherchent à combler un vide moral par l'abandon de la religion même. Alors, dans leur geste de consommation, ils cherchent à combler ce vide moral-là. Là, aujourd'hui, les gens veulent acheter des produits qui vont aider à sauver la planète, sauver les animaux, baisser la quantité de plastique. Baisser la quantité de plastique, soit dit en passant, la grande distribution met une grande pression sur nous pour diminuer nos quantités d'emballage plastique. Alors, vous imaginez, on n'a pas encore trouvé la solution pour nos légumes surgelés, alors c'est tout un défi. Mais plus près de nous, je vous dirais, il y a la grande tendance, puis ce sera à vous de me le dire si c'est vrai, là, mais... Il y a des gens qui prétendent que la production de protéines animales, ça a un impact très important sur l'environnement. Alors, il y a une certaine couche de population qui cherche à diminuer les protéines animales pour des protéines végétales. Ensuite, le retour aux sources, le local, l'achat authentique, simple. A priori, on pourrait penser que pour nos catégories de produits, l'achat local, c'est important, mais en fait, il n'en est rien. L'achat local pour nos catégories de produits, ça fait partie des derniers critères d'achat, en fait, et de loin les derniers. Néanmoins, pour certains de nos clients, c'est très important. Puis on a un beau succès aussi avec les fermes LUFA. Ça a été évoqué tout à l'heure, les fermes LUFA. Évidemment, leur modèle d'affaires repose sur l'achat local. Vous comprendrez qu'en plein mois de janvier, ils ont du mal à s'approvisionner en légumes locaux bio. Alors, ils nous ont contactés. Puis on a réussi à mettre en relation nos producteurs biologiques locaux avec la plateforme d'achat des fermes LUFA. Puis aujourd'hui, bien, c'est un beau succès. En plein mois de janvier, si dans vos paniers, vous avez des légumes surgelés bio, mais ça provient des fermes du Québec locales. Mais au-delà de tout ça, il y a trois grandes priorités qui guident nos travaux en innovation, trois grandes tendances de consommation. Le premier, c'est qu'on veut satisfaire la curiosité de nos consommateurs. De plus en plus, les consommateurs sont ouverts à consommer des aliments exotiques, différents. Ils sont aussi très ouverts à le consommer d'une autre façon. On cherche aussi à combler l'aspect santé, évidemment, mais plus précisément, on cherche à combler le besoin de changer les protéines animales pour des protéines végétales. Et le troisième, c'est l'équilibre. Ce qu'on remarque, c'est que les consommateurs recherchent un équilibre dans la consommation. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils veulent des produits à valeur ajoutée, des produits tout préparés, mais pas trop préparés. Il faut que ça demeure quand même naturel. Ils veulent aussi faire de la standardisation. Ils veulent pouvoir y ajouter leur touche personnelle. Et puis, ils veulent que ça soit adapté à leur mode de vie. D'ailleurs, on a un projet en ce moment qui s'appelle le projet 7AM. On essaie d'amener plus de légumes au déjeuner. Et on a fait une étude pour comprendre comment se comportaient les déjeuners. Et on a compris que finalement, les déjeuners ne sont pas si différents des autres repas. Il y a une grande fragmentation de façon traditionnelle de consommer les repas. Prenons l'exemple ce matin. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas assis pour manger des œufs, bacon, saucisses. J'ai mangé ici à l'hôtel ce matin. Un muesli. Mais je veux dire, à la maison, je ne fais plus ça. C'est impossible. Je fais exactement ce que la recherche dit. Je prends un early morning snack. Je m'en vais au travail. J'arrive au travail. Je prends un mid morning snack vers 10h30 le matin. Sur l'heure du midi, parce que j'ai eu un snack vers 10h30, je peux prendre une salade et ça convient. Et je vais compléter ma journée avec un goûter léger dans l'après-midi. Alors, ce que ça fait, ça, c'est que c'est une opportunité incroyable pour prendre des repas traditionnels, les fragmenter en snacks, Mais ce n'est pas les snacks comme une barre de chocolat puis un chip. Les gens veulent des snacks santé et protéinés. Ce sont des superbes opportunités pour nous. Maintenant, comment ceci a un impact sur mes collègues agronomes? Bien, vous le voyez venir, c'est quand même assez simple. On leur demande des cultures de plus en plus exotiques, mais c'est tout un défi pour eux. Pourquoi? Bien, parce qu'on fait le pari que si on les fait ici localement, on sera plus rentable pour les faire. Puis deuxièmement, bien, c'est parce que je suis un peu tanné de voir des innovations venir de d'autres pays. On est capable de faire des innovations ici au Québec. Il y a beaucoup de cultures dans le frais qui existent. Et puis là, je peux vous en nommer, j'avais fait une liste exhaustive là, quand je vous parlais d'innovation tout à l'heure. Là. Il y a les bok choy, les edamame, les betacardes, les rapini, les brussels kale, les choux frisés, les brocolini, les colini, les betteraves jaunes, les choux fleurs mauves, les rapini, les kohlrabi, les daikons, les carottes arc-en-ciel et j'en passe. Vous voyez comment est-ce que la section du frais nous impacte beaucoup en compétition. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de plus de variété. Ce qu'on demande à nos agronomes, c'est des super légumes. Premièrement, l'offre des légumes s'est élargie. On ne parle plus nécessairement de carottes et de pois verts aujourd'hui. On parle aussi de chia, de quinoa, des légumineuses qu'on intègre à nos produits, ce qui fait monter la protéine dans nos produits, ce qui fait aussi augmenter certaines vitamines. C'est très recherché par les consommateurs. Puis l'exemple que je vous ai mis ici, c'est ce qu'on va lancer prochainement, le One Pot. C'est un mélange de légumes. C'est un repas, en fait, à base de protéines végétales auquel on rajoute notre propre bouillon de poulet ou de bœuf. Ensuite, on demande à nos collègues agronomes de nous aider à satisfaire le besoin d'équilibre dans la consommation. Et ça, ça passe aussi par différentes coupes de légumes, différentes formes de légumes. Puis ça, c'est un franc succès qu'on a eu ici, c'est le riz de chou-fleur. Alors, le chou-fleur, ça a un goût neutre, en fait. Alors, quand on l'assaisonne, et puis avec sa coupe, c'est à s'y méprendre. On croirait manger du riz, on croirait manger un couscous, on croirait manger un taboulé. Alors, c'est très versatile, ça nous permet de créer des différents repas avec différentes propriétés organoleptiques et vitamines, etc. On pourrait croire, a priori, que c'est un sous-produit de notre transformation du chou-fleur, mais il n'en est rien. Bien, en fait, oui, en partie, mais il y a aussi une portion agronomique à ce projet qui est à souligner. Puis finalement, ce n'est pas que les tendances consommateurs, il y a aussi les inventions qu'on fait. On est fiers de celles-ci. Ce qu'on fait ici avec l'invention du dernier produit Fajitas, avec la technologie InFlavor, c'est qu'on retire un certain pourcentage d'eau avant la surgélation. Ce qui fait que pour les légumes à forte teneur en eau, comme le poivron, champignon, oignon, il est moins affecté par le processus de surgélation, ce qui fait que ces légumes ont maintenant une performance incroyable en surgelé. Ce qui arrive aussi, c'est que vu que c'était peu présent surgelé, il n'y avait pas vraiment de filière de légumes de transformation existante pour ces légumes, mais ça met une pression sur mes collègues agronomes pour justement bâtir cette filière puis avoir des coûts compétitifs pour cette gamme de produits.
Rendu au champ directement dans les cultures, ce que le marché exige doit se traduire en production. Beaucoup de ce que font les agronomes s'appuie sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Elle est agronome pour Bonduel, Marie-Lou Charon.
L'engagement, si on veut, RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise, puis optimalement la certification B Corp. Vous pouvez vous en douter, l'agriculture a un rôle super important à jouer à ce niveau-là. Puis, c'est ce qui va nous aider, en fait, à répondre, entre autres, aux exigences des consommateurs. À la base, Bonduel, lorsqu'on a commencé à parler de RSE, il y a des dirigeants, là, puis Bonduel, c'est une entreprise internationale. Là, donc, il y a des dirigeants un petit peu partout qui se sont rencontrés, puis ils ont élaboré là, une stratégie bien précise au niveau du RSE, dont certaines parties qui touchent, bien sûr, l'agriculture. Fait qu'on parle ici de choses aussi simples que la conservation des sols. Travailler avec des producteurs qui ont des bonnes pratiques agricoles. Fait qu'on peut parler de bonnes rotations. La bonne gestion de l'eau, par exemple, il y a aussi les agricultures de précision, l'utilisation, entre autres, des pièges pour les insectes, des stations météo. Ça, c'est juste des exemples des bonnes pratiques qu'on recherche chez nos partenaires producteurs. Il y a aussi, là, de notre côté, bien sûr, la diminution des pesticides. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est au niveau du maïs sucré. Il faut savoir qu'avant, puis là, je parle de ça il y a plusieurs années, tous nos champs étaient traités pour la pyrale. Tous les champs étaient traités ou presque avec un insecticide qui était non sélectif. Donc, le premier réflexe qu'on a eu, assez simple, bien, on va travailler avec un insecticide sélectif. Donc, déjà là, on a fait un pas de l'avant. Par contre, ce n'était pas suffisant pour la vision Bonduel. Donc, on s'est inspiré de ce qui se fait chez le marché frais. Il y a deux éléments qui en sont ressortis, entre autres. On parle de pièges et aussi l'utilisation des trichogrammes. Donc, pour ce qui est des pièges, on s'est bâti un réseau là, de piégeage à l'interne là, au niveau de la pyrale. Tous nos résultats sont partagés aussi là, avec le réseau phytosanitaire d'avertissement là, pour la pyrale. Puis ça nous permet, avec nos dépistages, bien sûr, de sélectionner vraiment les parcelles qui doivent être arrosées. Ça évite là, de faire des arrosages systématiques partout. L'autre chose qu'on a travaillé, c'est au niveau de la trichogramme. Donc, tout ce qui est les cultures au niveau du marché frais biologique, on sait que la trichogramme, c'est quelque chose qui est efficace. Par contre, à notre niveau, c'est important de savoir qu'on travaille là, sur des grandes superficies. Donc, nos champs, on parle d'environ là, une cinquantaine d'acres au minimum. Puis, au Québec, on cultive là, environ, là, je dirais, 9000 acres là, de maïs sucré par année. Donc, appliquer les trichogrammes de la façon du marché frais, c'est-à-dire manuellement, avec des trichocartes, aller les déposer au champ et tout, c'est complètement impossible pour nous, surtout en ce qui concerne le conventionnel. Donc, on a travaillé beaucoup avec des centres de recherche puis des experts dans le domaine. Puis, on a décidé de voir si c'était applicable par la voie des airs. C'est essayer de trouver une façon plus efficace de les appliquer. Donc, on a travaillé en premier lieu avec des drones. Puis, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était pas suffisant pour nous. On voulait faire plus de superficie par jour, arriver à couvrir plus de terrain. Donc, maintenant, on est en train d'essayer une application par avion. Les œufs de trichogramme sont mis dans un média liquide, puis sont pulvérisés là, sur nos champs. On est vraiment juste au niveau des tests pour ça, mais en tout cas, on espère bien que ça va être concluant. La réalité des champs, c'est que pas juste la pyrale qui est ravageur dans le maïs sucré, il peut avoir des chrysomèles. On entend aussi parler du ver gris occidental du haricot qui s'en vient là, tranquillement là, dans nos champs. Donc, la trichogramme, c'est bien beau, ça va venir traiter au niveau de la pyrale, mais il faut s'assurer, avant d'utiliser la trichogramme, au niveau du conventionnel, c'est qu'il n'y ait pas d'autres ravageurs. Parce que s'il y a d'autres ravageurs, puis il faut faire une intervention insecticide, bien là, on vient d'éliminer nos trichogrammes. Donc, c'est pas juste simple, mais on y travaille là, assez fort pour essayer de trouver là, une solution gagnante.
Ici Lionel Levac. La liste des exemples aurait pu être encore longue. Dans un prochain blog, je vous parlerai du secteur laitier, où également l'évolution des marchés influe directement sur le travail des agronomes, autant du secteur animal que du secteur végétal. Au revoir.